VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du lundi 23 novembre 2015. Au sommaire ce soir.
Le Mali observe un deuil national en hommage aux victimes de l'attaque terroriste de vendredi à Bamako.
Et les autorités maliennes sont toujours à la recherche de complices des assaillants de l'hôtel Radisson Blu.
La scène est tellement vaste, on doit passer au peigne fin. Tout objet qu'on peut retrouver peut nous aider pour la recherche de la vérité, pour les identifications.
Attentat de Paris, François Hollande à la recherche d'une plus grande solidarité internationale contre les djihadistes. Alors qu'en Belgique, l'alerte maximale est maintenue dans toute la capitale, Bruxelles.
5 personnes tuées, une vingtaine d'autres arrêtées durant le week-end. Le climat de violence et de tension persiste au Burundi.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Le Mali observe 3 jours de deuil national après l'attaque de vendredi qui a fait au moins 19 morts dans l'hôtel Radisson à Bamako. Le point avec Idriss Fall.
Les drapeaux sont en berne dans la capitale malienne où la sécurité a été renforcée. Par solidarité, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée observent 3 jours de deuil. Le président sénégalais Macky Sall est venu hier à Bamako présenter ses condoléances, assurant que le Mali ne sera jamais seul dans ce combat. Le président béninois Thomas Yayi Boni et le premier ministre de la transition burkinabé Isaac Zida se sont rendus aujourd'hui pour exprimer leur soutien aux Maliens. Pour le procureur Boubacar Sidiki Samake, chargé de l'enquête, les auteurs du forfait ont bénéficié de complicité. Les limiers de la police ont trouvé une valise contenant des grenades dans le hall de l'hôtel. L'attentat a d'abord été revendiqué par Al-Mourabitoun, un groupe extrémiste dirigé par l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, alias Le Borgne. D'ailleurs, d'après Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, Belmokhtar, très recherché, est plusieurs fois donné pour mort et toujours vivant. Dans un autre communiqué adressé à l'AFP, le Front de libération du Massina, un groupe djihadiste du centre du Mali, a aussi revendiqué cette attaque.
Troisième jour d'une vaste opération antiterroriste en Belgique, pays européen toujours sous la menace et en état d'urgence. Lionel Gaïma.
Selon le parquet fédéral, 21 personnes ont été interpellées depuis hier soir. Ce matin, 5 suspects ont été arrêtés à Bruxelles et à Liège. Et dimanche soir, 16 islamistes présumés ont été appréhendés au cours d'une vaste opération dans la capitale et à Charleroi. Le français Salah Abdeslam, traqué depuis le 13 novembre par les polices belges et françaises, a encore échappé à l'opération. Il pourrait essayer de se rendre en Allemagne, selon la police. La menace d'attentat étant toujours sérieuse et imminente, le gouvernement belge a décidé de maintenir le niveau d'alerte à son maximum depuis 3 jours. Les écoles, les universités sont fermées et le métro est à l'arrêt. Les autorités belges redoutent des attaques similaires à celles de Paris qui ont fait 130 morts et 350 blessés. On prend les mesures qui sont nécessaires autant que possible pour garantir la sécurité des gens. Mais la vie économique et sociale doit continuer à Bruxelles, a déclaré ce lundi sur RTBF le ministre de l'Intérieur Jean Jambon, soulignant que les entreprises et le secteur public devaient fonctionner.
Le président français François Hollande doit rencontrer demain son homologue américain Barack Obama dans le cadre d'une tournée qui le mènera dans plusieurs pays pour intensifier la lutte contre le groupe État islamique et trouver une solution politique à la guerre en Syrie. Des précisions avec Idrissa Seydoudia.
Selon la Maison-Blanche, les deux leaders discuteront des moyens de renforcer la coopération avec la coalition menée par les États-Unis et qui effectue des frappes aériennes contre des cibles djihadistes en Irak et en Syrie depuis plus d'un an. Les avions français ont fait partie de ces efforts, mais des officiels américains ont dit à l'agence Reuters que cette plus grande coopération n'inclut pas un élargissement de l'opération à des forces terrestres en Syrie. Le président Hollande, qui a reçu aujourd'hui le premier ministre britannique David Cameron, a déclaré que l'objectif militaire en Syrie et en Irak était de faire le plus de dégâts possible au groupe État islamique, une position à laquelle M. Cameron a apporté fermement son soutien. M. Hollande rencontrera mercredi la chancelière allemande Angela Merkel, puis aura des entretiens jeudi à Moscou avec son homologue russe Vladimir Poutine et dimanche à Paris avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon.
Il existe un front uni contre le groupe État islamique, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry, ajoutant qu'il est absolument convaincu que les militants de Daesh seront vaincus. Durant sa visite aux Émirats arabes unis, M. Kerry a dit à la chaîne de télévision NBC qu'une stratégie est en place et les États-Unis, qui mènent une coalition contre les djihadistes, vont intensifier leurs efforts diplomatiques et militaires, ainsi que leurs activités antiterroristes.
Au Burundi, au moins 5 personnes ont été tuées ce week-end. Une vingtaine de personnes auraient été arrêtées et conduites à la prison centrale de Bujumbura. Certaines ont été relâchées. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Les témoignages de la population du quartier Ngagara sont formels. Vers 16h samedi après-midi, dans le bar chez Masuguru, près du lycée Saint-Albert, un groupe de policiers tire. Puis une vingtaine de jeunes qui étaient en réunion de mariage sont arrêtés. Mais entre-temps, 3 personnes, dont un employé d'une banque, sont tuées. Le porte-parole adjoint indique que des criminels armés étaient en réunion dans ce cabaret. Des armes, dont des kalachnikovs, ont été saisies selon la police. Alors que la population s'interroge comment des jeunes qui sont en réunion pendant la journée peuvent-ils être arrêtés, la police affirme que c'est pour des raisons d'enquête. Mais les sources des familles de ces jeunes reconnaissent qu'ils ont été déjà amenés à la prison centrale de Mpimba. Presque toute la nuit de samedi vers dimanche, les tirs à l'arme automatique et des grenades ont été entendus dans différents quartiers contestataires au sud et au nord de Bujumbura. Une personne a été tuée à Ruziba au sud, tandis qu'une autre a été retrouvée morte au nord du pays, dans la province de Kirundo, près de la frontière avec le Rwanda. Mais selon une ONG internationale réfugiée, la violence est aussi remarquée dans la province de Makamba, au sud du Burundi. Des familles craignent pour leur vie et dorment dans la forêt ou à la Belle Étoile, tout comme la plupart des citadins vivant dans les quartiers contestataires de la capitale. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
D'autre part, le ministère burundais de l'Intérieur a interdit provisoirement ce lundi les activités des organisations de la société civile qui sont contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. 10 associations sont visées par l'ordonnance, dont des ONG de lutte contre la corruption et de soutien à l'enfance. La semaine dernière, le procureur général du Burundi a déjà bloqué les comptes de certaines organisations.
Au Nigeria, 8 personnes ont été tuées et 7 blessées dimanche dans un attentat suicide à Maïdougouri. D'autre part, le militant nigérian pro-Biafra Namin Kanu fait l'objet d'une enquête pour terrorisme et financement du terrorisme, a annoncé aujourd'hui son avocat à l'issue d'une audience judiciaire qui a confirmé le maintien en détention de son client.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président congolais Joseph Kabila a proposé à l'ONU les noms de 4 personnes susceptibles d'assurer une médiation internationale dans le dialogue national qu'il souhaite lancer, rapporte l'AFP. Il propose l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, le président angolais Eduardo dos Santos, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise Moustapha Niass et l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs Saïd Djinnit.
Une 60aine d'athlètes kényans ont pénétré ce lundi dans le bureau de leur fédération d'athlétisme à Nairobi pour demander le licenciement des officiels accusés de corruption et un examen approfondi des allégations de dopage. Selon l'AFP, la semaine dernière, un article dans le journal britannique Sunday Times révélait que le vice-président de la fédération, David Okeyo, faisait partie des 3 kényans accusés d'avoir détourné 700 000 dollars d'un contrat de partenariat entre la Fédération kényane et Nike.
Le sort des réfugiés syriens arrivant en Occident risque d'être plus incertain après les récentes attaques terroristes en Europe. Par contre, le Canada s'apprête à accueillir 25 000 d'entre eux à partir du 1er décembre. Venant de la Jordanie, ces réfugiés seront transportés vers Montréal et Toronto au rythme de 900 par jour, selon des médias canadiens qui citent un document confidentiel. Le gouvernement Trudeau semble aller à contre-courant de son public, puisqu'un récent sondage révèle que 54% des citoyens canadiens s'opposent à la relocalisation des réfugiés syriens dans leur pays.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé un renforcement des mesures de sécurité en Cisjordanie occupée et a indiqué que les forces israéliennes avaient carte blanche pour le faire. Concrètement, cela implique des contrôles plus serrés pour les véhicules palestiniens, la mise en place d'itinéraires différents pour les Palestiniens et les colons israéliens et la suppression des permis de travail en Israël pour les familles des auteurs d'attentats.
À l'approche de la conférence sur le climat à Paris, le ministre de l'économie forestière et du développement durable de la République du Congo, Henri Djombo a appelé les pays riches à fournir l'essentiel des efforts internationaux pour limiter le réchauffement planétaire.
Et à quelques jours du lancement de la COP 21 à Paris, l'Organisation des Nations Unies a publié un rapport accablant sur les catastrophes provoquées par des phénomènes météorologiques. Durant les 20 dernières années, environ 606 000 personnes ont trouvé la mort dans des inondations, tempêtes, vagues de chaleur et sécheresses. Cela représente en moyenne 30 000 vies par an, avec plus de 4 100 000 personnes blessées devenues sans abri ou ayant eu besoin d'une aide d'urgence. L'urgence précise le rapport, 89% des victimes vivaient dans des pays pauvres.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
À l'horizon de la réunion semestrielle de l'OPEP, l'Organisation des pays du pétrole, qui doit se tenir le 4 décembre prochain, l'Arabie saoudite s'est portée volontaire pour aider à stabiliser le cours des prix du pétrole, offrant de coopérer avec les autres producteurs, y compris ceux hors du cartel. Les cours du pétrole sont à leur plus bas niveau depuis 6 ans et demi. Un dessin d'Hergé pour Tintin au Congo a atteint 770 600 euros samedi lors d'une vente à la galerie Arcurial à Paris. Réalisé en 1937 et estimé à 300 500 000 euros, le dessin a été réalisé au crayon et à la gouache. Les œuvres d'Hergé, très recherchées dans leur version originale, ont rapporté au total 1 100 000 euros. En Afrique du Sud, la fin de l'année est à l'austérité. Le Trésor sud-africain affiche sa volonté de réduire les dépenses inutiles dans les ministères et les organismes publics. Les mesures appliquées depuis 2013 auraient permis d'économiser 135 millions d'euros entre 2014 et 2015, soit 8% de dépenses en moins pour les consultants, la restauration et les voyages. Enfin, à Madagascar, l'État va continuer à renflouer les caisses de la compagnie aérienne nationale Air Madagascar en attendant de trouver des partenaires stratégiques et un plan de redressement de la société qui devrait être soumis sous peu au gouvernement.
Merci Anastasie pour la Minute Éco.
Pour notre page sport, nous accueillons en studio ce soir John Linden. Salut John.
Bonsoir Gabi.
On va parler tout d'abord de la Coupe de la CAF. L'Étoile du Sahel prend une option.
L'équipe tunisienne de l'Étoile du Sahel a pris une option pour la victoire finale après avoir décroché le match nul sur le terrain des Sud-Africains d'Orlando 1-1 samedi en finale aller de la Coupe des Confédérations de la CAF. L'Étoile du Sahel recevra dimanche prochain Orlando au stade olympique de Sousse pour confirmer ce résultat lors de la finale retour.
Victoire de l'Africa Sport dans la Supercoupe de Côte d'Ivoire.
L'Africa Sport d'Abidjan a remporté la Supercoupe de Côte d'Ivoire en battant l'AS Tanda 1-0 samedi au stade municipal de Yamoussoukro au nord d'Abidjan.
Et parlons dopage, la Russie un point de mire. Il y a eu une rencontre entre l'AMA et le ministre russe des Sports cette semaine.
Le ministre russe des Sports, Vital Gomukhtar, rencontrera plutôt cette semaine à Francfort les représentants de l'Agence mondiale antidopage AMA pour établir une feuille de route en vue d'une levée de la suspension de la Russie en athlétisme prononcée le 13 novembre par l'IAAF. Pour dopage organisé, a-t-il annoncé lundi. L'AMA a publié la semaine dernière un rapport sur le dopage dans l'athlétisme russe rédigé par son ancien président Dick Pont, qui met en lumière le fait que la RUSADA avait aidé à dissimuler des cas positifs impliquant des athlètes russes. Elle a dans la foulée déclaré la RUSADA non conforme. La semaine précédente, l'IAAF avait suspendu la Russie de toute compétition. Les autorités russes restent toutefois confiantes quant à la participation des athlètes russes au JO de 2016 à Rio.
Le suspense prendra bientôt fin pour Sepp Blatter et Michel Platini. Un verdict est attendu en décembre, John.
Eh bien, le verdict pour Michel Platini et Joseph Blatter, déjà suspendu provisoirement jusqu'au 5 janvier, est attendu en décembre, a indiqué lundi la justice interne de la FIFA. Il est reproché à Platini un paiement suspect de 1,8 million d'euros reçu en 2011 de la part de Blatter pour un travail de conseiller achevé en 2002. Blatter est également inquiété pour un contrat de droit TV présumé déloyal envers la FIFA.
John Linden, qui nous présentera Sporama ce lundi à 19h, temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Dorcil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Mali.
Oui, retour sur l'attaque de vendredi contre l'hôtel Radisson de Bamako. Le bilan est lourd puisqu'on compte 22 morts, dont 13 étrangers. Il y a également 7 blessés. Les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours à partir d'aujourd'hui. Également décrété l'état d'urgence pour 10 jours. Alors le procureur antiterrorisme a ouvert une enquête. Les forces de sécurité sont à la recherche de 3 suspects. Le point avec Kassim Traoré.
Le bilan de l'attaque à l'hôtel Radisson de Bamako est de 22 morts, y compris les 2 terroristes. Il y a 6 Russes, 3 Chinois, 2 Belges, une Sénégalaise, une Américaine. La force spéciale malienne a pu sauver 130 personnes. Certains étaient revenus à l'hôtel récupérer leurs affaires.
J'ai vu des traces de sang et tout ça et j'étais catastrophée par autant de méchanceté.
Je ne pars pas précipité. La preuve, je viens chercher mes affaires tranquillement. J'ai dormi tranquillement hier soir dans un endroit sécurisé avec une personne pour me protéger. Qu'est-ce que je peux demander plus?
L'hôtel Radisson reste fermé, mais reste à la disposition des techniciens des scènes de crime, sous le contrôle des responsables de la police scientifique du Mali.
La scène est tellement vaste qu'on doit passer au peigne fin. Tout objet qu'on peut retrouver peut nous aider pour la recherche de la vérité, pour les identifications.
Au début de la prise d'otage, la presse malienne avait fait une confusion entre un véhicule de l'ambassade des États-Unis et la voiture venue déposer les terroristes. L'ambassadeur des États-Unis au Mali donne des éclaircissements. Paul Fols.
Je sais que les gens avouent qu'un véhicule était allé à la route à Radisson. Cet véhicule était un chauffeur qui était là pour emmener quelqu'un et emmener de l'hôtel. Ils ont fui de la voiture à cause des terroristes et ils ont laissé la voiture là, simplement ça. Il y a plusieurs personnes qui étaient tuées. Aussi, un travailleur qui vient des États-Unis. Elle s'appelle Anita Dutter. Elle était ici pour aider le peuple de Mali. Elle était mère. C'est vraiment une grande tragédie. Elle était en vol de l'accord de la paix du Sénégal.
Le président Macky Sall a effectué une visite express à Bamako. Il s'est rendu sur les lieux du drame avant de se recueillir sur la tombe de la Sénégalaise assassinée lors de l'attentat. Macky Sall, président de la République du Sénégal.
Je suis venu dire au président Ibrahim Boubacar Keïta que jamais le Mali ne sera seul. Nous avons vu combien la haine a pu marquer ces assaillants, ces criminels qui ont tué des innocents, qui avaient juste le tort d'être là au mauvais moment. Je pense que cela montre simplement que, encore une fois, plus que jamais, nul n'est à l'abri de telles agressions barbares et que le moment est venu d'une prise de conscience globale, puisqu'il faut une action globale pour mettre fin à ce genre de carnage et d'action.
Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Tout ce qui est étrange, moi qui l'a dit, tout ce qui vous semble suspect, vous avez le devoir de l'indiquer. Les forces sont là, elles ont montré leur compétence inouïe dans cette affaire-là, leur grand professionnalisme. Je tiens encore une fois à leur rendre hommage. Hommage vivant, et je suis fier de ce qu'elles ont fait. Je voudrais dire aussi que je suis très content, très fier de la société internationale qui s'est mise dès l'abord.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Burundi, le ministère de l'Intérieur a interdit provisoirement les activités des ONG contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Beaucoup de leaders de la société civile sont poursuivis pour insurrection et ceux qui ont échappé à la mort sont partis en exil. 10 associations sont visées par l'ordonnance ministérielle, dont le Forum pour la conscience et le développement, ou FOCODE. Idriss Fall a recueilli la réaction de Gordien Nyongeko, secrétaire exécutif du FOCODE.
Cette mesure de suspension provisoire entre dans la logique des mesures drastiques qui ont été toujours prises pour les organisations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Ce n'est pas pour la première fois que les organisations qui ont toujours dénoncé les abus du pouvoir de Nkurunziza et qui ont allé jusqu'à prendre le rôle de pionnier donc les abus du troisième mandat et des problèmes de la part du pouvoir, mettre les bateaux dans les roues pour nous perturber, le combat que nous avons commencé depuis le 26, mais toutes ces mesures ne font rien pour pouvoir arrêter l'engagement de nos organisations à poursuivre le combat. Je rappelle que l'organisation, avant d'exister sur les papiers, existe d'abord par idéal. Et l'idéal se trouve dans le cœur des membres. Ce qui veut dire que la suspension a été faite sur les papiers, mais les organisations continue à fonctionner par idéal dans le cœur de chacun de nos membres.
Ils ont bloqué vos comptes en banque, les comptes en banque des ONG?
Ils ont bloqué nos comptes, ça, parce que c'est la semaine passée. Nous n'avons pas jusqu'ici eu de notification officielle, mais je viens de voir une lettre sur les réseaux sociaux qui parle de cette interdiction. Et aujourd'hui, une lettre du ministère de l'Intérieur est sortie pour une pension provisoire. Cela toujours entre dans la logique de pouvoir malmener nos organisations, mais rien ne change par rapport à notre engagement pour continuer la lutte pour le retour de la Constitution et l'accord d'Arusha qui ont été à l'origine de toutes ces décisions drastiques et injustifiées et contraires à toute logique et judiciaire.
Et vous n'avez pas peur?
La peur, nous en avons, comme tous les autres Burundais. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Avoir le nombre des assassinats, d'exécutions extrajudiciaires, de tortures, des exilés, des refusés, toute personne qui a un cœur ne pourrait pas ne pas avoir peur. Mais la peur ne doit pas nécessairement désarmer notre engagement parce que le désespoir et la peur, c'est le commencement de la mort. Nous devons être à la hauteur de tout cela. Ceux qui vont mourir et ceux qui vont poursuivre le combat vont continuer. Et après, notre rêve, c'est le retour dans l'état de droit, le retour dans l'état démocratique et le retour des accords d'Arusha qui ont stabilisé le pays depuis plus de 10 ans après de longues années de guerre civile.
C'était Gordi Enyangeko, secrétaire exécutif du FOCODE, Forum pour la conscience et le développement au Burundi.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Depuis le découpage de juillet dernier, la RDC compte 26 provinces au lieu de 11 antérieurement. Au Katanga, la plus vaste province après la province orientale, le changement a provoqué des remous et une polémique persiste à ce jour sur la gestion de ce que l'on appelle maintenant l'ex-province du Katanga. Le point avec notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila.
Les quatre nouveaux commissaires spéciaux du Katanga de Membré ont fait savoir à la presse par une déclaration lue le jeudi 19 novembre qu'ils ont constaté les zones d'ombre lors de la remise et reprise. Richard Muyège-Mangezmans, commissaire spécial de la province du Lualaba.
Les dossiers concernant les emprunts contractés par l'ex-province du Katanga évalués à 55 millions de dollars américains. 2. Le nantissement des recettes liées aux taxes importantes dues à la province, la taxe voirie et la taxe sur les concentrés pour plusieurs mois jusqu'au deuxième semestre 2016. Étant donné la délicatesse du dossier et la nécessité de clarifier toutes ces situations pour une meilleure prise en charge, nous, commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints des provinces précitées, avons décidé 1. De suspendre la participation de nos experts aux travaux de vérification des dossiers évoqués lors de cette séance de remise et reprise. 2. De solliciter du pouvoir central l'envoi de toute urgence des délégués des organes spécialisés compétents.
Ces déclarations ont fait rebondir la polémique pour les députés provinciaux Daniel Kapan-Kapand de l'ex-assemblée provinciale du Katanga. Cette déclaration vient à point nommé.
Tout ce qui s'est dit aujourd'hui, on le disait à son temps et personne ne voulait nous écouter. Et la gestion, elle était tellement cavalière et ça ne peut pas nous étonner aujourd'hui qui est-ce qu'il y a eu. Et je crois qu'on doit ouvrir l'œil le bon et faire un bon contrôle parce qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités et beaucoup d'anomalies. C'était anormal qu'une assemblée comme la nôtre n'ait pas fait une reddition de comptes pendant 3 exercices ou 4 exercices.
Tandis qu'Antoine Gabriel Kyungu Wakumanza, ex-président de l'Assemblée provinciale du Katanga et président du bureau provisoire de l'Assemblée du Haut-Katanga, prend en faux cette déclaration.
Je n'ai jamais vu une remise et reprise se transformer en audit. Je n'ai jamais vu ça. Vous arrivez, il manque 50 millions de votre boutique ou de votre... On a volé. Gardons l'esprit de fraternité.
Pour Christian Mwando, ancien ministre de Finances de l'ex-gouvernement provincial du Katanga, il y aurait des règlements des comptes.
À
parlait d'un emprunt qu'il aurait trouvé d'un trou de 55 millions de dollars dans les caisses de la province, c'est un mensonge éhonté. Le gouvernement provincial a laissé comme crédit s'évalue à peu près 2 350 000 dollars.
La polémique en cours à Lubumbashi serait une autre face cachée de l'ex-province pilote de 5 chantiers de la République où les bons élèves font face à la vérité et au mensonge. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
On a recensé quelques nouveaux cas d'Ebola au Libéria, c'est vrai, mais le pays a largement émergé de la crise qui a fait plus de 4800 morts. Les communautés du Libéria cherchent les moyens de perpétuer la mémoire des victimes. Certaines familles de Monrovia ont commencé à planter des arbres du souvenir près de leurs habitations. Voici le reportage du correspondant de La Voix de l'Amérique, Prince Collins, présenté par Arzuma Compaoré.
Une campagne radiophonique encourage les habitants de Monrovia, la capitale libérienne, à planter des colatiers et des palmiers dans leur arrière-cour pour se souvenir des parents morts dans l'épidémie d'Ebola. Les larmes aux yeux, Oreta Maurice dit une prière en plantant un palmier en l'honneur de son père.
Nous n'avons pas eu le temps de lui donner un enterrement décent. Ils l'ont amené. C'est pourquoi nous plantons cet arbre en sa mémoire. Chaque fois que je verrai cet arbre, je me souviendrai de lui. Je penserai toujours à mon père, combien il était aimant et attentionné.
Les corps des victimes d'Ebola sont particulièrement contagieux. Pour contenir le virus, leurs dépouilles ainsi que celles des personnes mortes de causes inconnues sont rapidement incinérées ou enterrées par des gens spécialement formés, souvent dans des tombes anonymes. Marcus Spear était le chef des équipes d'enterrement dans le comté voisin de Margidi. Il soutient que celles-ci ont fait tout ce qu'il fallait pour stopper le virus. Pour Marcus Spear, les arbres du souvenir viennent à point nommé.
Ils remplissent un vide. Au fur et à mesure que l'arbre grandit, ce que vous avez perdu, vos amis ou vos parents, croissent eux aussi dans une nouvelle vie.
L'initiative d'édification de la paix de l'ONG Search for Common Ground travaille avec les communautés qui se remettent des affres de l'Ebola à travers le Libéria. Selon leur directeur par intérim, Aaron Weya, chacune trouve une façon particulière d'honorer ses morts.
À Grand Cap Mount, où la pratique de l'islam prédomine, cette partie du comté a choisi d'organiser une fête et de lire des versets du Coran à mémoire des morts. Les habitants d'une autre communauté ont construit un monument. Ceux du comté de Lofa sont en train d'ériger une tombe symbolique.
Le Libéria a libéré son dernier patient atteint d'Ebola le 20 juillet, et l'Organisation mondiale de la santé y a déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola le 3 septembre. Toutefois, en fin de semaine, 3 nouveaux cas de la fièvre hémorragique ont été confirmés dans le pays, faisant redouter une résurgence de la maladie.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. La mise en onde était assurée par Lionel Gaïma. À la console, c'était Linus Remkes. À la présentation, Nathalie Barge et Chérubin Dorsille.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et surtout, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos. 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.